Bonjour très chers auditeurs, Catherine dans notre rendez-vous mensuel, chaque troisième samedi du mois, à votre santé. Alors des invités, des chroniques, des recettes, des trucs, de la bonne humeur, une joyeuse équipe de chroniqueuses pour vous parler de notre santé au naturel. Donc aujourd'hui, Margot, la globe-trotteuse, pour sa chronique carte blanche, évoquera les magasins sans emballage. Puis je recevrai Julien Perron, fondateur et directeur des sociétés Néo Bien-être et Néo Horizon, qui nous parlera notamment d'un film qu'il prépare pour 2006, C'est quoi le bonheur pour vous, et d'un projet d'une école de la vie, une école alternative. Puis nous retrouverons Marine pour un moment de méditation. Et puis Alice nous parlera des changements d'habitude alimentaire. Voilà. Je vous souhaite une très bonne émission, un très bon moment avec nous. À tout de suite après cette première pause musicale. I sit away. There's an angel contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, oh, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong. And down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break to call. She won't forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know with love. And as the feeling grows, she breathes flesh to my bones. When love is dead, I'm loving angels instead. And through it, we'll be right back.
take me. I'm loving angels instead.
On démarre l'émission aujourd'hui avec Margot et sa chronique Carte Blanche. Bonjour Margot.
Bonjour Catherine.
Tu vas bien ?
Très bien, et toi ?
Oui, alors de quoi tu vas nous parler aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, je vais vous parler des magasins sans emballage. Alors, on connaissait la vente en vrac dans les boutiques bio, principalement pour les aliments secs, tels que le riz, les pâtes, les légumes secs et les fruits secs, ou encore même les épices, le thé et le café. Mais j'ai découvert récemment les supermarchés zéro emballage, qui ont réussi à exploiter le concept à l'échelle d'un magasin tout entier. Dans ces rayons, pas de barquettes en plastique, ni de boîtes de conserve. La lessive y est vendue au litre, même le shampoing, le gel douche s'obtiennent sans emballage. On dit donc adieu aux superflus super polluants, conservateurs et autres produits chimiques. Alors concrètement, comment ça marche ? Les clients apportent leurs boîtes contenant de toutes sortes. S'ils oublient, ils peuvent acheter sur place des contenants réutilisables en verre ou en carton. Ensuite, on pèse le contenant et on choisit ses produits dans la quantité voulue. On rentre chez soi et on revient pour remplir lorsque c'est vide. C'est tout simple. En permettant aux clients d'acheter non seulement les produits sans emballage inutile, mais aussi la quantité qu'ils souhaitent, on fait d'une pierre deux coups. Cela permet non seulement de réduire la quantité de déchets que nous produisons, ce qui représente quand même à ce jour pas moins de 1,7 milliard de déchets ménagers par an dans le monde, d'après le site Globometer. Sans compter ceux produits par les entreprises et autres, qui représentent environ 20 milliards. Mais cela permet également de réduire considérablement le gaspillage. Il faut savoir qu'environ 1,3 milliard de tonnes de denrées alimentaires se perdent chaque année, ce qui correspond à un tiers de la production mondiale. C'est énorme.
C'est énorme, en effet. Oui, je pensais pas qu'il y avait... Que c'était...
Oui, un tiers de la production mondiale qui est perdue.
Quel gaspillage.
Oui. Donc, grâce à la réduction du gâchis et à la suppression des intermédiaires, c'est entre 20 et 60% d'économies pour un magasin avec zéro emballage. Ces économies vont permettre de baisser les prix des produits au plus grand bonheur des consommateurs.
Ah oui, j'imagine.
C'est aussi en travaillant avec des producteurs locaux que le projet devient possible, car le transport des produits sans emballage doit être le plus court possible pour ne pas risquer de les abîmer. Si ce concept d'épicerie comme l'on en trouvait autrefois partout en Europe occidentale revient au goût du jour, quelques expériences de boutiques zéro emballage ont déjà été lancées ailleurs ces dernières années. Par exemple, pionnier en Europe, le magasin Unpackaged a ouvert ses portes à Londres en 2007, comme le rapportait The Independent, mais a tiré le rideau en 2013 faute d'être rentable, malheureusement. À Vienne, une autre épicerie à l'ancienne, Lusner's, a ouvert au début de l'année. Deux Berlinois s'apprêtent à ouvrir le premier supermarché du genre outre-Rhin. Son nom, The Original Unverpacked, littéralement sans emballage d'origine. Enfin, en France, le magasin appelé La Recharge va ouvrir ses portes à Bordeaux. Et oui, en France aussi, ça arrive.
C'est le premier magasin de ce type ?
Le tout premier magasin sans aucun emballage qui ouvrira donc très prochainement, d'ici 2 semaines, je crois, à Bordeaux. Alors, si vous aussi, vous en avez marre de trier tous vos emballages et de vous battre avec poubelles jaunes, bleues, vertes ou je ne sais quelle autre couleur, et si vous rêvez de voir ouvrir ce type de magasin près de chez vous, n'attendez plus et lancez-vous. C'est un succès assuré, je pense.
Très, voilà, très merci. Bonne idée, ça, oui. Il faut faire passer l'info, hein. Oui, c'est intéressant. Merci, Margot, pour toutes ces informations. À bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Just like I knew you would.
Like I knew you would.
We're taking.
Aujourd'hui, dans notre dossier, je reçois Julien Perron, fondateur et directeur des sociétés Néo Bien-être et Néo Horizon. Bonjour Julien.
Bonjour Catherine.
Alors Julien, je vais te laisser te présenter et voilà, je te donne la parole.
Ok, merci. Ben oui, effectivement, j'ai créé la société Néo Bien-être et la société Néo Horizon en 2003. À l'époque, j'avais 24 ans. Voilà, j'ai 35 ans, bientôt 36 là, au mois de décembre. Et l'origine est partie d'un constat assez basique, si je puis dire, qui était que ça faisait déjà quasiment 7 ans que j'étais dans une entreprise et je constatais que j'allais pas travailler avec un entrain et que j'étais très heureux, en tout cas du côté professionnel. Et donc je me suis dit, j'ai au moins encore 40 ans dans le mois pour travailler, parce que de toute façon, visiblement, on n'a pas le choix. Donc, oui. J'ai obligé de travailler et donc du coup, je me suis dit, il faut que je m'oriente absolument sur quelque chose qui me passionne. Quitte à gagner deux fois moins que ce que je gagnais à l'époque, mais que je me lève tous les matins avec la banane. Et donc, du coup, un matin, j'ai eu l'idée de créer Néo Horizon, qui est un réseau qui regroupe des agences de voyage et des hébergements qui sont orientés sur le bien-être et sur l'éco-responsabilité, qui est ma façon de voyager depuis l'âge de 12 ans. Et donc, progressivement, les choses sont mises en place et les thérapeutes et les professionnels du bien-être sont venus nous voir pour nous demander de gérer les stages, les différents événements qui se proposaient en France à l'étranger. Alors, mon parcours, il est quelque part atypique. Je suis tombé dans la marmite du développement personnel, des médecines alternatives et du bien-être quand j'étais tout petit, parce que mes parents étaient déjà sensibles à toutes les thématiques. Et j'ai fait 14 ans de Kung-Fu, donc j'ai été champion de France et d'Île-de-France. Ça m'a amené à me passionner de beaucoup de choses, dont les arts énergétiques, évidemment.
Oui.
Curieux de nature, je bouquine depuis l'âge de 12 ans, donc j'ai essayé de comprendre les mécanismes de l'être humain, les mécanismes de la planète, les mécanismes bancaires. Bref, une soif de curiosité. J'avais pas les réponses à l'école. J'avais pas forcément les réponses auprès de mes parents, de mes amis ou de mon frère. Et donc, l'alternative qui se présentait à moi, c'était de bouquiner. Et donc, chemin faisant, tous ces professionnels sont venus nous voir, nous ont demandé de faire partie aussi de Néo Horizon. Donc, au bout de 4-5 ans, il y avait un flou artistique et on a décidé de créer Néo Bien-être, qui est donc l'agence de communication, qui est dédiée aux thérapeutes et aux professionnels du bien-être. Donc notre objectif, c'est essentiellement de les aider à développer leur activité en France, mais aussi dans les pays francophones, puisqu'on est présent au Canada, en Suisse, en Belgique, en Angleterre, au Maroc et bientôt dans les Dom-Tom. Et donc du coup, on les aide à communiquer, à se mettre en valeur. La première chose qu'on leur propose, c'est d'être présent sur notre site internet, sur neobien-être.fr. On touche un petit peu plus de 50 000 personnes maintenant par mois qui sont des cadres supérieurs. Ce sont des créatifs culturels ou des bourgeois bohèmes, pour ceux qui connaissent. Ce sont des personnes qui s'intéressent au bien-être, à l'environnement, au développement personnel. Mm-hmm. Et donc, du coup, en étant présents sur notre site, ils bénéficient de notre énergie, de notre application depuis 11 ans, puisqu'on n'est pas juste une agence de communication ou un site internet.
Tout à fait, oui.
On se mobilise vraiment tous les jours de différentes façons. Alors, tu le sais, on organise des rencontres,
oui,
entre thérapeutes et professionnels du bien-être. On les organise quasiment partout en France, puisque je fais le tour de la France tous les mois. Donc, c'est Toulouse, Bordeaux, La Rochelle, Nantes, Rennes, Paris, Lille, Strasbourg, Lyon, Toulon, Montpellier. Et puis, on fait ça aussi à Montréal, à Bruxelles, à Lausanne en Suisse, et puis à Londres, donc en Angleterre.
Et on peut avoir les dates et les lieux de rencontre sur ton site Néo Bien-être.
Tout à fait. En allant sur le site, il y a une rubrique qui s'appelle Nos services. Et dans cette rubrique, on retrouve une autre rubrique qui s'intitule Rencontre interthérapeute. Et là, on a toutes les dates et toutes les villes dans lesquelles on passe. Donc, ça fait quasiment 5 ans maintenant qu'on organise ces rencontres. Nous, on a estimé qu'on a dû voir un petit peu plus de 12 000 thérapeutes avec le temps. Et ce sont vraiment des événements très riches,
oui,
humains. Dans le sens où notre objectif avec Néo Bien-être et Néo Horizon, un de nos objectifs, c'est vraiment de remettre l'humain au centre des choses. c'est pour nous toutes les limites d'Internet. Et donc, du coup, ces rencontres, évidemment, privilégient le contact humain.
Oui.
On s'aperçoit vraiment que chacun est très isolé dans son activité, dans son coin, et qu'il n'y a pas vraiment de personnes qui fédèrent comme on peut le faire pour organiser et pour faire en sorte que ces gens se rencontrent, qu'on puisse discuter les uns avec les autres sous des valeurs communes, sous des visions aussi parfois communes, et donc ça crée de la synergie, de la complémentarité. Bref, notre idée, c'est de se dire, pourquoi on ne fait pas comme les fourmis?
Bien sûr,
les fourmis,
oui.
À tout compris.
Oui.
Elles avancent toutes dans la même direction, elles sont toutes complémentaires, donc pour moi, c'est une vraie leçon qu'elles font tous les jours, les fourmis.
Mais il est temps de ne plus rester seul, hein, maintenant, de collaborer, de partager, de se rencontrer. Hein, plus que jamais maintenant.
Exactement, oui. Et puis on voit, hein, les choses s'accélèrent. Il y a des prises de conscience qui se font de manière aussi exponentielle ces 4-5 dernières années. Et tant mieux. On a envie d'un nouveau paradigme. Et les gens bougent. Alors nous, en 2003, on pensait un peu être seuls dans notre façon de voir les choses. Et puis finalement, avec le temps, on s'est aperçu qu'on est vraiment des millions de personnes de par le monde à se mobiliser. Et apporter chacun une pierre à sa façon pour essayer de changer les choses. Parce qu'on sait bien que c'est pas le gouvernement, c'est pas les politiques, c'est pas les gens qui tirent les ficelles là-haut qui vont changer les choses. Si on veut vraiment que les choses changent, c'est à nous de le produire. Et Gandhi disait très bien, hein, soyons le changement qu'on voit dans le monde, et c'est vraiment une vérité qu'il faut prendre au sérieux.
Tout à fait, j'adhère complètement, oui.
Du coup, toutes ces rencontres, évidemment, mobilisent plein d'idées, plein de créativité, et ça suscite beaucoup de choses aussi après derrière, et tant mieux. Le développement de mes réseaux, de mes bien-être aussi, a permis d'inspirer et de donner des idées à beaucoup de personnes pour créer aussi leur activité de leur côté, et c'est aussi un de nos objectifs, en montrant que si nous, on peut le faire, tout le monde peut le faire, il n'y a aucune raison. Et puis voilà, donc les choses avancent. Depuis le mois de décembre dernier, on est en train de réaliser un film qui s'intitule « C'est quoi le bonheur pour vous ?» 7 milliards d'individus, 7 milliards de définitions. Ça a commencé au Canada. Et donc là, depuis, on a pratiqué quasiment plus de 34 000 kilomètres entre la France, donc le Canada, la Suisse, la Belgique et l'Angleterre. On va partir là, pendant un mois en océan Indien du 17 novembre au 17 décembre pour aller à l'île Maurice, à l'île de la Réunion, ainsi qu'à Rodrigue, pour interroger la population. Et puis après, on part du 17 février au 9 mars aux États-Unis, essentiellement en Californie, pour interroger aussi la population. Les retombées financières du film vont nous permettre de créer ce que j'appelle une école de la vie. On en avait déjà parlé tous les deux.
Oui.
C'est pour moi une école qui est très inspirée de Montessori, de Steiner, qui est donc évidemment totalement à contre-courant de l'éducation nationale, parce que déjà, quand j'étais tout petit, en CM2, j'imaginais déjà créer une école, parce que je ne me sentais pas à l'aise, je sentais qu'on me mettait dans une boîte, je sentais qu'il ne fallait absolument pas que je sorte des rails, et que toute la créativité que je pouvais avoir était quelque part absurde, quoi. Je ne pouvais pas m'exprimer, et donc, le temps passe, hein, puis tu fais, tu te mets un peu de côté, et puis voilà, maintenant, avec le développement de Néo Bien-être et de Néo Horizons sur le documentaire, on a senti il y a à peine quelques semaines qu'il était temps d'en parler et de passer à l'action. Voilà, donc du coup, on est parti pour créer une école de la vie. Alors, ce ne sera pas en France, ce sera à l'étranger.
Oh, c'est bien dommage, parce qu'ici... Dans l'Aveyron, il y a beaucoup de gens qui sont sensibles aux écoles alternatives et beaucoup de volonté de faire bouger les choses à ce niveau-là. Mais bon, on va te suivre, hein, Julien, dans cette belle initiative. Donc, tu as décidé déjà de l'endroit où se montrait ce projet d'école de la vie?
Oui, tout à fait. Alors, pour le moment, on ne peut pas vraiment en parler parce que c'est en stade de projet, mais on a une idée assez précise, oui. Alors, notre idée motrice, notre constat plutôt, c'est de se dire, de toute façon, en France, c'est relativement compliqué de mettre à bien des projets, encore plus, j'imagine, quand on touche à l'éducation. Et donc, c'est veut le faire à l'étranger pour apporter 10 fois plus après en France. C'est-à-dire que c'est pas quitter la France pour quitter, mais c'est vraiment, voilà, c'est quitter
c'est pour mieux revenir.
C'est ça. Et donc, du coup, on va revenir après avec l'équivalent d'un cahier des charges ou d'un document bien ficelé en disant, voilà, nous, on l'a monté ici, c'est possible, on a tout étudié pour que ça soit possible dans tous les pays. C'est vraiment notre objectif. Donc, pour des questions de facilité, pour des questions aussi d'énergie, parce qu'on voit à travers le développement de notre activité, et on n'est pas les seuls, hein. Je vois quand je discute avec des chefs d'entreprise, avec des auto-entrepreneurs, il y a un phénomène qui est de ralentissement en France à plein de niveaux quand on a de l'énergie, qu'on veut développer des activités. Faut vraiment redoubler l'énergie pour voyager de par le monde. Je m'aperçois que je suis pas clair de plus vers ailleurs, mais pour monter des projets, parfois dans d'autres pays, ça peut être beaucoup plus rapide compte tenu de l'énergie qu'on peut y intégrer. Donc c'est vraiment pour mieux revenir en France avec un beau projet de fixé en disant bah, c'est possible.
Très bien.
Donc on avance dans ce sens-là. Voilà.
Bon, eh bien. Alors, on va te suivre hein, sur ton site. Il y aura toutes les infos. Je sais qu'on peut participer aussi d'une manière ou d'une autre à ce projet. Hein, il suffit de t'en faire part en fait.
Exactement. Alors tout le monde peut nous envoyer un email à info@neobienetre.fr. Pour la petite anecdote, cet été, on est parti à vélo avec 10 internautes. On a fait 900 km à vélo de Nantes-Biarritz pendant une dizaine de jours, avec pour objectif d'interroger la population sur notre documentaire, donc c'est quoi le bonheur pour vous. On est reparti avec un petit peu plus de 200 interviews. Ça a généré aussi beaucoup de buzz et beaucoup de relais médiatiques. Et donc, du coup, tous les ans, on va repartir aussi à vélo, on est devenu fan de vélo. Et on va repartir à la CPT en 2015, à la première semaine de 2015, pour un trip à vélo avec une douzaine de personnes qui ont envie de nous suivre, avec un objectif différent, puisqu'on ne va pas interviewer la population. C'est plus un objectif qui est rattaché à notre domaine d'activité, qui est lié à l'humain, au sport, au bien-être et au développement personnel. Donc du coup, on va partir de Nantes, on va remonter du côté de Saint-Malo, dans le long de la côte, on fera 500 km, avec du yoga le matin et de la méditation en fin de journée. Donc c'est toujours pareil pour ceux qui ont envie de venir avec nous, surtout qui n'hésitent pas. Pour nous, ça a été une expérience humaine incomparable quand on est parti cet été, on ne s'attendait absolument pas à ça.
J'imagine,
et j'ai vu des personnes arriver et repartir totalement différent. C'était une vraie thérapie positive et donc du coup, on a envie d'apporter ça tous les ans à ceux qui ont envie de nous suivre dans cette aventure parce que c'est vraiment magique à toute notre vie. Voilà, une petite parenthèse à ce sujet qui bénéficie évidemment à C'est quoi le bonheur pour vous, le documentaire, qui bénéficie aussi à l'école de la vie parce que on est vraiment bien relayé par les médias, et les médias nous suivent depuis quasiment le début de notre activité. On doit avoir plus de 50 articles dans la presse. On a des passages à la télé. On y a un autre plateau TV fin janvier. On passe à la radio comme aujourd'hui. On a réussi aussi à créer notre propre radio avec une autre chaîne de radio. Enfin, voilà, les médias voient bien qu'on se bouge et c'est bien de nous soutenir aussi à ce niveau-là. Donc, je vous remercie d'ailleurs pour cette interview.
Est-ce que tu pourrais nous rappeler ton adresse pour t'envoyer un mail hein, ce serait bien de le redire.
C'est info au singulier, @neobienetre.fr.
Très bien. Voilà. Bien, merci beaucoup pour toutes ces belles initiatives, Julien. Hein, on peut donc te suivre dans tous ces projets-là. Donc, eh bien, on peut retrouver aussi, juste après cette pause musicale, Marine qui, dans la chronique « C'est quoi le bonheur ?», va nous parler justement de la méditation. À tout de suite.
Merci, Catherine.
Si vous venez de nous rejoindre, c'est À votre santé, notre émission mensuelle sur la santé, le bien-être au naturel. Et tout de suite, Marine, naturopathe, énergéticienne, pour sa chronique « C'est quoi le bonheur ?». Bonjour Marine.
Bonjour Catherine.
Aujourd'hui, tu vas nous parler de...
Aujourd'hui, on va parler de méditation.
La méditation, eh bien, nous t'écoutons.
Donc la méditation et ses bienfaits, même s'ils ne sont plus à démontrer, hein, parce que, comme vous le savez peut-être, hein, la méditation est préconisée par de nombreux médecins pour apaiser le mental et même gérer la dépression. Hein, et tous ceux qui pratiquent la méditation le constatent et sont unanimes. Méditer aide à réduire le stress, réduire l'anxiété, ça renforce le système immunitaire, augmente notre énergie, améliore notre créativité, notre capacité de concentration. Bon, la liste est encore longue, hein, je vous inviterai à la compléter au fur et à mesure de votre expérience et de votre pratique. Alors, pourquoi la méditation a-t-elle ces bienfaits dont on vient de parler ? Il a été démontré également que la méditation peut entraîner des changements dans la structure même de notre cerveau. Il y a des études maintenant qui sont faites sur la méditation. Et méditer produit une modification sur la façon dont nos neurones communiquent entre eux en créant de nouveaux circuits. C'est-à-dire que tous les circuits anciens qui créent du mal-être, qui créent du stress dans notre cerveau vont pouvoir être modifiés et recréés de façon à ce que l'harmonie soit plus présente, hein, dans notre façon de penser, dans notre façon de ressentir les choses.
Et c'est formidable ça.
Oui, c'est formidable et je pense que... plus nous allons méditer, plus les gens vont méditer et plus le bien-être global s'en ressentira. C'est pour ça que je trouvais intéressant d'en parler aujourd'hui.
Et je crois avoir lu que c'est le Dalai Lama qui préconisait la méditation pour les tout-petits. Et
oui.
Il disait que si on apprenait à nos enfants à méditer... il n'y aurait plus de guerre dans le monde.
C'est ça, c'est tout à fait la philosophie du Dalai Lama et du bouddhisme, hein, de manière générale, même si la méditation peut tout à fait être pratiquée de manière laïque, hein, elle n'est pas du tout
rattachée à des croyances religieuses, bien sûr.
Tout à fait, mais les bienfaits sont là, hein, du fait que c'est la structure même de notre cerveau qui se modifie, et d'autant plus chez les enfants, puisque chez les enfants, elle est en construction. Donc, le fait d'amener la méditation chez les enfants va permettre de construire leur schéma neuronaux beaucoup plus tôt, et ils vont pouvoir profiter des nouveaux bienfaits, des nouveaux programmes beaucoup plus longtemps et ne pas créer des schémas qui ne leur conviendront pas.
Très bien.
Donc apprendre à méditer, finalement, c'est facile, hein, c'est pas quelque chose de compliqué, mais par contre ça demande de la régularité, hein, c'est méditer régulièrement pour que ce soit de plus en plus facile, de plus en plus naturel.
Oui, parce qu'on peut méditer n'importe où, n'importe quand, on peut méditer seul, en groupe.
C'est ça.
On peut...
La méditation, c'est une forme de concentration. C'est pas tellement une façon de faire, c'est une façon d'être.
Oui, il y a différentes manières d'être en méditation.
Hein,
on peut être guidé aussi.
Hein, on peut être guidé.
La méditation guidée, la méditation basée juste sur la respiration, on se concentre uniquement sur la respiration ou sur une partie de notre corps qui respire. Ou
voilà. Hein,
y a vraiment de quoi méditer pour tous et chacun peut trouver la manière qui lui convient.
C'est ça. Et moi, j'allais vous proposer donc un exemple, hein, donc
oui,
de méditation pour démarrer, hein, quelque chose de tout simple, mais pour ressentir, hein, cet état de méditation. Donc pour ça, vous vous installez donc confortablement, hein, sur une chaise, le dos posé sur le dossier. Bon, vous pouvez aussi vous allonger si vous en avez envie,
mais la
position doit être telle que vous ne vous endormiez pas.
Hein, oui, ça serait mieux. Oui, je préfère pas m'endormir. L'émission n'est pas terminée. Hein. Si je m'endors, ça le fait pas.
Oui, voilà. Donc, il s'agit, c'est un état de conscience. Hein, donc, il faut toujours être conscient quand on médite. Hein. Donc, vous vous installez confortablement, vous décroisez les jambes, vous gardez les mains ouvertes et vous pouvez donc fermer les yeux. Et à ce moment-là, vous commencez à être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Donc, pour ça, vous vous concentrez sur votre respiration. Vous l'observez, hein, tout simplement. Simplement une observation de l'air qui entre dans les narines, dans les poumons, et qui ressort, peut-être par le nez, peut-être par la bouche, simplement en observant. Vous observez l'endroit du corps où elle se place, son rythme, son amplitude, le bruit qu'elle fait ou pas, le mouvement qu'elle provoque, etc. Après quelques instants, vos pensées vont recommencer à vagabonder. Hein. Ça, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Donc, quand vous le réalisez, vous revenez simplement à vos sensations physiques. Et c'est ça, méditer. C'est toujours revenir aux sensations physiques, être concentré sur un point, hein, le point de concentration, hein, qu'on parle de ça en méditation. Et c'est tout le temps, à chaque fois que les pensées s'en vont, parce qu'elles vont le faire, parce qu'elles le font, les ramener tout simplement à soi-même, reporter notre attention sur les sensations physiques.
Ben, tu veux dire, revenir aux sensations physiques, laisser hein, les pensées aller et venir sans chercher à les gérer, à les orienter, sans porter de jugement.
Voilà, c'est ça, sans porter d'attention à ses pensées. Hein, parce que méditer, parfois j'entends des gens qui me disent bah oui, mais je n'arrive pas à ne plus penser. Mais c'est normal.
C'est normal, oui. C'est même rassurant.
C'est même rassurant, on est encore en vie, le cerveau fonctionne, oui. Nous avons des pensées. Donc il ne s'agit pas de ne plus penser, mais de ne pas porter d'attention à ces pensées. Donc de les laisser passer, elles vont arriver, elles vont partir. On n'y fait pas attention, presque on ne se souvient plus d'avoir pensé après la méditation. Parce qu'on a toujours ramené notre attention sur la respiration, sur le corps, sur les sensations que l'on a à l'intérieur.
Je suppose qu'au début, ce n'est pas forcément facile, mais qu'avec quelques séances de pratique, quelques moments de pratique, ça vient assez vite quand même.
Oui, oui, oui. Et puis, c'est pour ça que j'insistais sur le fait que c'est important de le faire régulièrement. Hein, pas forcément longtemps.
Oui.
On peut démarrer par 5 minutes, peut-être 3 minutes, si 5 minutes c'est trop long, mais au moins 3 minutes, le faire régulièrement et puis après, progressivement, augmenter la durée, pourquoi pas. Hein, mais toujours pas se mettre la pression, en fait, hein, c'est vraiment ça. Hein, c'est y aller à son rythme et vaut mieux le faire 3 minutes pleinement que d'essayer de le faire 15 minutes en souffrance et puis de ne pas avoir envie de recommencer.
Très bien.
Voilà.
Merci Marine pour tous ces bons conseils. On te retrouve le mois prochain. À bientôt.
À bientôt, au revoir.
la chronique d'Alice, l'assiette, le monde et moi. Bonjour Alice.
Bonjour Catherine.
Alors aujourd'hui Alice, tu vas nous parler des changements d'habitude alimentaire. Vaste programme.
Tout à fait. Nouvelle chronique, nouveau sujet, le changement. Le changement, c'est l'essence même de la vie. Regardez autour de vous et en vous, tout change quasiment à chaque instant, à des rythmes différents bien sûr. La luminosité, le temps, la température extérieure, la végétation, les gens qui nous entourent, nos ressentis, nos sentiments. Tout cela change selon les rythmes de la journée, des saisons, selon les événements. Et parfois, nous décidons de changer nos modes de vie, nos habitudes, notre alimentation. Pourquoi est-ce qu'on veut changer ? Changer, évoluer, c'est laisser couler la vie en nous, c'est accepter ce qui est. Refuser tout changement revient à se couper du mouvement de la vie. Tout croît, grandit, se transforme. Souvent, nous voulons changer des choses dans notre vie pour nous sentir mieux, plus épanouis, en adéquation avec des valeurs et des envies. Et l'alimentation est une belle porte d'entrée pour réaliser des transformations dans sa vie, car elle touche notre être dans beaucoup de dimensions, la dimension corporelle, spirituelle et émotionnelle. Elle touche aussi notre rapport au monde. Tout commence lorsqu'on fait nos courses ou qu'on produit notre nourriture. On fait des choix. Ensuite, on décide comment préparer ses aliments, comment les présenter, à quel moment les manger, en quelle quantité, avec qui, dans quelle ambiance. Nous héritons de fonctionnements issus de notre éducation et notre expérience aussi. Nous faisons des choix plus ou moins conscients et éclairés. Lorsque vous trouvez une voie qui vous plaît, une alimentation qui vous inspire, vous souhaitez vous donner les moyens pour être sur ce chemin. Vous essayez donc, et parfois vous rechutez. Vous pouvez avoir des compulsions alimentaires qui vous ramènent à votre ancien fonctionnement. Voici donc quelques freins qui peuvent vous gêner dans votre évolution et des clés pour réussir à prendre soin de vous comme vous le désirez. Le premier frein, c'est de vouloir tout contrôler. Quand une envie de chips, de pizza, de glace se fait sentir, vous avez tendance à vous juger, à vous réfréner, jusqu'au fameux craquage. Alors n'attendez pas le craquage, accordez-vous des plaisirs en vous disant que c'est ce qu'il y a de mieux pour vous à ce moment-là. Et ensuite, dès que vous le sentez, reprenez votre chemin vers le changement. Le deuxième frein, c'est de vouloir aller trop vite. Bien souvent, les habitudes alimentaires, elles sont ancrées. Donc soyez patient avec vous-même. Les changements les plus durables sont ceux qui se font petit à petit sur le long terme. Le troisième frein, c'est la peur. N'ayez pas peur du changement, ne luttez pas contre lui. Car il est là de toute façon. Acceptez ce qui est au moment présent. Et voyez ce qui se passe dans votre corps, vos ressentis et vos émotions. Remplacez la peur par la confiance. Quatrième frein, les résultats. Privilégiez le chemin aux résultats. Vous connaîtrez sûrement des étapes. Vous découvrirez comment vous fonctionnez petit à petit. Cinquième frein, la contrainte. Soyez doux avec vous-même. Mangez ce qui vous fait plaisir et ne mangez pas en disant « je mange ça parce que j'en ai besoin, mais je mange ça parce que j'aime ce que j'ai fait et ce que je me suis préparé ». Et surtout, si je peux vous donner un conseil, ne faites pas de régime strict. Faites un changement durable, sans restriction. Privilégiez aussi la convivialité. Le sixième frein, c'est le manque de temps. Cuisiner, ça prend du temps. Et s'informer, ça prend du temps. Aller faire ses courses et les faire bien quand on fait des changements, ça prend du temps. Mais aussi, quand on prend du temps, on prend le temps aussi de rencontrer des gens et d'échanger avec eux. Donc voilà, prenez le temps de faire les choses. Le septième frein, et qui n'est pas des moindres, c'est les habitudes. Donc soyez souple, sachez vous adapter à des changements de programme, d'horaire. N'ayez pas des habitudes trop rigides. Huitième frein, changer son alimentation sans revoir son mode de vie. Généralement, le changement alimentaire seul ne suffit pas, il fait partie d'un tout, avec l'activité physique, la respiration, le sommeil, l'élimination. Voilà, c'est un chemin qui se met en place doucement. Et le dernier frein qui me semble important aussi, c'est la solitude. Quand on est dans un changement alimentaire, ça peut être bon de s'entourer de personnes qui suivent une voie plus ou moins similaire à la vôtre, qui vous soutiennent et qui vous encouragent, avec qui vous pouvez partager des repas, des recettes et vos ressentis. Donc les trois maîtres mots que je vous donne aujourd'hui, c'est patience, confiance et joie. Et je vous souhaite un très beau chemin sur la voie du changement.
Merci Alice, moi ça me parle beaucoup tout ce que tu viens de nous dire. Je pense que je vais réécouter tout ça et ça me plaît bien. Oui, merci beaucoup Alice.
Avec grand plaisir.
Au revoir Alice.
Au revoir Catherine.
Donc on te retrouve le mois prochain pour une nouvelle chronique.
Oui, ce sera une nouvelle vision du végétarisme, première partie.
Très bien, merci.
I'm a new soul, I came to this strange world, hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and the fear, finding myself making every possible mistake. La 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 la
I'm a new soul, I came to this strange world, hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and the fear, finding myself making every possible mistake.
Aujourd'hui, dans la rubrique Trucs et astuces, si vous avez envie d'arrêter de fumer ou simplement peut-être de conseiller à quelqu'un de votre entourage d'arrêter de fumer, voici un petit truc qui pourrait vous aider. Alors bon, je déconseille malgré tout l'utilisation de la cigarette électronique. Elle contient des additifs à dose équivalente aux cigarettes conventionnelles. Malgré tout ce qu'on peut dire, il y a du formaldéhyde, du formol, de l'acroléine, pour faire un peu technique. Mais bon, vous pouvez peut-être vous aider par un mélange de plantes sauvages à fumer, sans nicotine et sans additifs. Alors, vous pouvez vous procurer, en attendant d'arrêter complètement, pour faciliter en tout cas le sevrage, vous pouvez vous procurer quelques plantes qui ne sont pas nocives à la santé et que vous allez rouler comme du tabac à rouler. Rendez-vous chez votre herboriste et là vous allez demander une part de chacune des plantes suivantes que vous allez mélanger. Donc tout d'abord, une part d'aspérule odorante, c'est simplement pour l'odeur, c'est du foin odorant. Ensuite, vous demanderez une part de tucilage, c'est une plante des voies respiratoires, elle est bronchodilatatrice et expectorante. Puis de la molène, c'est une plante également des voies respiratoires, elle est émolliente, régénératrice des muqueuses pulmonaires. Et puis, éventuellement, de la menthe poivrée. C'est facultatif, mais elle est intéressante surtout pour le goût. Donc, vous mélangez à part égale ces plantes. Et puis, vous procurez une rouleuse ou vous les roulez à la main avec des filtres en papier. Et c'est beaucoup moins toxique et surtout beaucoup moins coûteux que de fumer du tabac classique. Et de la cigarette électronique aussi. Donc voilà, c'est bien sûr une étape et la prochaine étape, c'est vraiment entamer une transition vers l'arrêt total en complétant votre démarche par une hygiène de vie qui soutient surtout la détoxication de l'organisme. Alors faites-vous aider, c'est pas évident. Voilà, donc bon courage. Eh bien, on arrive au terme de l'émission. C'est déjà fini. Notre émission, donc, à votre santé, tous les troisièmes samedis du mois, de 10h à 11h, avec une rediffusion le mardi à 21h. Restez à l'écoute de CFM, mais surtout, restez à l'écoute de vous-même. À très bientôt. Au revoir.
You. you want.